France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un patient tétraplégique capable de contrôler son ordinateur grâce à une puce cérébrale. Incroyable image diffusée la nuit dernière par la société américaine Neuralink. On décrit et on décrypte cette avancée dans un instant. Le traité de libre-échange avec le Canada en débat 7 ans après au Sénat. Coup politique des oppositions que l'on vous explique, mais réelle inquiétude aussi des éleveurs français qui craignent la concurrence internationale. À suivre encore, le déficit 2023. Bonjour Mathilde Dehimi.
Bonjour Jérôme.
Il ne cesse de s'aggraver.
Les prévisions sont bien plus mauvaises que prévues et le gouvernement fait tout pour préparer les esprits aux efforts à venir.
Et aux chiffres définitifs, la semaine prochaine, vos explications Mathilde dans un instant. Nous nous demanderons également pourquoi les hommes politiques se mettent en scène en boxeur en ce moment et comment lutter contre la prolifération des frelons asiatiques. On piège les rennes ces jours-ci.
Là, on commence juste à avoir de la chaleur et du beau temps. Donc les frelons asiatiques vont sortir de leur diapause, c'est l'hibernation des insectes, et vont construire un nid, comme une balle de tennis, et il n'y a qu'un individu, la fondatrice. C'est là où on intervient.
Reportage dans quelques minutes. À 13h30, on parle de l'accès à l'eau en Guadeloupe. Canalisation vétuste, station d'épuration non conforme, eau potable régulièrement coupée, plusieurs collectifs lancent une action en justice, on en parle avec nos invités et avec vous, 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France, dans les coulisses des annonces du guide Michelin cette semaine, ce sera avec Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, le chanteur Les Cop demande Break On Through The Doors à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Est-ce une géniale innovation ou un coup de com'? C'est la question que beaucoup de scientifiques se sont posées il y a 4 ans quand la start-up américaine Neuralink a présenté son nouvel implant cérébral. De la taille d'une pièce de monnaie, glissé dans le cerveau, il devait permettre à des personnes tétraplégiques, donc paralysées des 4 membres, de contrôler à distance la souris d'un ordinateur. Ça ouvre évidemment des perspectives considérables. Alors on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui, mais manifestement, ça fonctionne. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour Jérôme.
La société dirigée par le milliardaire Elon Musk a diffusé cette nuit une vidéo et on y voit un patient tétraplégique jouer aux échecs.
Oui, Nolan Arbos a 29 ans. Il est paralysé depuis 8 ans après avoir été victime d'un accident de plongée. Il y a 2 mois, il a donc reçu ce premier implant Neuralink. Dans cette vidéo diffusée sur X, le réseau social qui appartient aussi à Elon Musk, on le voit contrôler la souris de l'ordinateur pour jouer aux échecs.
J'adore jouer aux échecs. C'est une des choses que Neuralink m'a permis de faire alors que c'était impossible pour moi ces dernières années. Alors que jusqu'à présent, j'utilisais un joystick relié à ma bouche. Mais maintenant, j'utilise mon cerveau. Quand vous voyez le curseur sur l'écran, c'est moi qui le fais bouger. Plutôt cool, non ?
Si les scientifiques qui travaillent sur ces technologies n'aiment pas trop la méthode de Musk, aucune publication scientifique, aucune relecture par des pairs, ils louent néanmoins la prouesse technologique. Grégoire Courtine est neuroscientifique et chercheur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne.
C'est un énorme coup de com'. Au niveau de l'impact fonctionnel, il n'y a rien de nouveau, ça a été fait en 2004. L'avancée, elle est avant tout d'avoir créé cet implant qui est extrêmement beau. Au niveau technologique, c'est extrêmement avancé, complètement implanté, qui lui permet d'enregistrer sans fil des grandes quantités de données de l'activité cérébrale. Après, pour utiliser ces signaux et en faire des thérapies, il y a en fait un saut, non pas quantitatif, mais qualitatif.
Elon Musk veut proposer son implant à tous afin de permettre de mieux communiquer avec les ordinateurs et de contenir, dit-il, le risque pour notre civilisation que représente l'intelligence artificielle. Le milliardaire américain souhaite faire remarcher des patients paralysés, rendre la vue aux aveugles ou encore guérir les personnes atteintes de maladies psychiatriques. Vous l'avez compris, Jérôme, on n'y est pas encore, mais avec cet implant, il possède déjà une très bonne base technologique.
Et on a mesuré, grâce à vous, la réelle avancée avec cet implant cérébral. Merci Victor Dolande. Toujours concernant les personnes en situation de handicap, l'un des sujets majeurs, c'est celui de l'accessibilité. Comment on accède à un emploi? On va parler dans un instant du succès des cafés joyeux. Comment on accède à des lieux publics? Par exemple, les forêts, très peu sont accessibles aujourd'hui. Pas forcément de parking, des parcours accidentés. Et pourtant c'est possible. Comme l'a constaté Benjamin Recouvreur en forêt de Fontainebleau, 6 parcours complètement accessibles ont été aménagés.
Au milieu des pins et
et des chênes, Marie déambule sur un large chemin qui fend la forêt.
Là, je marche avec deux cannes, j'utilise aussi des fois le fauteuil roulant.
Atteinte d'une maladie rare, la jeune femme vient ici très régulièrement.
Le sol est praticable, que ce soit en canne, que ce soit qu'un fauteuil. C'est plat, il n'y a pas de pente. Il y a des bancs partout, à peu près tous les 50, 100 mètres. On peut se reposer.
Et ce n'est pas le cas partout en forêt.
Les sols ne sont pas toujours meubles, que ce soit qu'un fauteuil ou avec des cannes, il y a souvent des obstacles. Ça m'est déjà arrivé de partir sur un sentier. Et on se rend compte que finalement, on est bloqué. Et là, de voir que tout est fait pour tous, je prends un réel plaisir de venir ici me ressourcer.
2 kilomètres de parcours dans cet arboretum, place sans obstacle à travers la centaine d'espèces présentes, mais sans aucune trace de béton.
Là, ça y est, on est passé dans la hêtrée.
Et bordé d'un fil d'Ariane le long du chemin pour se repérer. Tout est fait pour rassurer tout le monde, explique Sophie David de l'Office National des Forêts.
Là, nous, l'idée, c'est de dire, allez-y, tentez, c'est accessible. Mais on n'en fait pas plus, on veut aussi qu'ils retrouvent la nature. C'est une vraie immersion. Pourtant, on est quand même guidé grâce à ce fil d'Ariane et puis l'ensemble de l'arboretum est clos par un grillage. Donc en fait, on ne peut pas se perdre. On met toujours l'accent sur les villes, mais finalement, la forêt a tout aussi le droit d'être accessible à tous.
L'ONF insiste par ailleurs, de nombreux massifs sont aussi accessibles sans aménagement particulier.
Benjamin Recouvreur. Et puis sur l'accès à l'emploi, lui a donc le succès des Cafés Joyeux, ces établissements qui emploient des personnes en situation de handicap mental. Déjà à plusieurs adresses en France et en Europe. Et dans quelques heures, une première aux États-Unis, à New York, un 21e établissement qui ouvre un 21 mars, journée internationale de la trisomie 21, c'est plus qu'un symbole pour Yann Bucaille-Lanrezac, le fondateur des Cafés Joyeux.
On a bien fait de le faire parce que l'inclusion n'a pas de frontières, l'inclusion c'est un sujet universel. Il y a 7 millions de personnes en situation de handicap mental aux États-Unis et la problématique elle est la même qu'en Europe. Ils sont tous exclus du monde du travail. Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose aussi à montrer aux US, au cœur des plus grandes corporations américaines et mondiales, des cabinets d'avocats, des entreprises dans la banque. Ces personnes-là ont la capacité de changer les choses. Donc quelque part, c'est ça qui est un gros clin d'œil, c'est de montrer qu'au pied de leur immeuble, ils peuvent venir se restaurer par des équipiers trisomiques ou par des personnes en situation de handicap mental avec des troubles du spectre autistique et qu'ils se rendent compte que finalement, eux aussi, ont leur place. Peut-être que ça va faire des exemples, des modèles, des idées pour d'autres.
Un Café Joyeux donc à Brooklyn, désormais leur fondateur au téléphone de Sarah Mansoura. Disons-le d'emblée, même si les sénateurs rejettent aujourd'hui le traité de libre-échange avec le Canada, le CETA, il continuera de s'appliquer en France, comme c'est le cas depuis 2017, ce qui pour plusieurs élus pose d'ailleurs un problème démocratique. Bonjour Maxence Lambrec.
Bonjour Jérôme.
Service politique d'Inter, on va en parler avec vous dans quelques minutes. Nous verrons aussi quel a été l'impact de ce traité pour notre agriculture, puisque c'est l'un des éléments du débat. Ce sera avec vous Agnès Soubiran. Bonjour Agnès.
Bonjour.
D'abord direction l'Assemblée nationale, d'abord direction le Sénat, où une bataille plutôt étrange a donc lieu depuis ce matin. Marie Mollet, les Républicains soutiennent le texte de rejet qui a été déposé par les communistes et tout cela contre le gouvernement.
Sur le banc des ministres, ce matin, Franck Riester, chargé du commerce extérieur, qui vante un excellent accord, dit-il. Rien que des avantages, un bilan positif.
Nos exportations françaises ont bondi de 33% en 6 ans, tous secteurs confondus. Nos viandes bovines étaient promises il y a 7 ans à la menace d'une invasion incontrôlable venue du Canada. Il n'en est rien. On est loin de l'invasion.
Puis il s'adresse au sénateur LR. En clair, ne faites pas du CETA un bouc émissaire ni un instrument facile de campagne électorale.
Aux élus de droite, ne tombez pas dans le piège d'une alliance incongrue et contre nature avec les communistes. Mettez la campagne des élections européennes entre parenthèses le temps d'un vote.
Réponse courroucée du patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau. Nul besoin, dit-il, de nous faire la morale.
Vous n'avez cessé de nous donner des leçons. Mais qui êtes-vous, votre gouvernement ? Que chacun balaye devant sa porte. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une instrumentalisation au moment des élections européennes, au plus haut niveau de l'État, pour faire naître la peur ?
Le groupe communiste, lui, défend sa position contre le CETA pour la défense des paysans français. Mais pour la sénatrice Cécile Cukierman, n'y voyez pas une déclaration de guerre au Canada.
Quel que soit le vote de ce matin, il y aura du sirop d'érable le dimanche matin pour les pancakes.
Dans le gouvernement, on ne se fait pas d'illusions sur l'issue de ce débat. Accord de libre-échange rejeté, prédit un conseiller.
Marie Mollet, Maxence Lambrec, je reviens vers vous. Un traité de libre-échange peut s'appliquer en France sans qu'il ait été adopté ni par les Français par référendum, ni par les deux assemblées.
Oui, parce que l'essentiel de cet accord ne relève pas directement de la souveraineté des États membres. Il n'y a pas de transfert de compétences, à part sur la troisième partie du texte, qui n'est donc toujours toujours pas appliquée. Elle prévoit la mise en place de super tribunaux pour régler les futurs litiges entre entreprises européennes et canadiennes. Ça nécessite un vote. En revanche, la réduction des droits de douane, elle est déjà appliquée depuis 7 ans et ça va continuer quel que soit le résultat du vote. Pourquoi ? Parce que l'Assemblée, elle, a adopté cet accord il y a 5 ans et il faudrait qu'elle revienne sur son vote. Ça nécessite d'abord une commission mixte paritaire non conclusive que seul le gouvernement peut convoquer. Et il est loin d'être pressé, je cite, « On ne va pas suivre l'agenda électoral », assume un conseiller, « on attendra un moment politique moins opportuniste ». Et même si dans un an ou deux, l'Assemblée le rejette, ce sera à l'exécutif de notifier officiellement ce rejet à Bruxelles. Le gouvernement chypriote, par exemple, ne l'a pas fait en 2020. Dans l'UE, seuls 17 États membres l'ont officiellement ratifié. Les autres laissent traîner, comme en Italie, où la ratification paraît aujourd'hui impossible.
Alors, Marie Mollet nous l'a rappelé, ce débat intervient en pleine campagne pour les élections européennes, mais aussi alors que la crise agricole couve toujours. Les éleveurs français, par exemple, dénoncent le risque de concurrence déloyale des Canadiens avec ce texte. Agnès Soubiran, je reviens vers vous. 7 ans après, est-ce qu'on peut faire un bilan ?
Oui, et le bilan est positif pour l'agriculture française. Commençons par la viticulture. La viticulture, c'est le premier marché entre la France et le Canada. Les exportations de vins et spiritueux ont augmenté de 50% pour atteindre 700 millions d'euros. Pour les fromage. Ces exportations ont progressé de 60% pour atteindre 59 millions d'euros. Mais le hic, c'est que l'Europe est déjà quasiment au maximum de ses quotas d'exportation pour les fromages, ce qui veut dire que les perspectives sont limitées quand le Canada n'utilise, lui, qu'une part infime de ses possibilités d'exportation. Et ça nourrit aussi, en partie, l'inquiétude des éleveurs bovins. Aujourd'hui, les importations de viande bovine canadienne en France se limitent à quelques dizaines de tonnes, quand l'Hexagone envoie, lui, 407 tonnes, pour répondre notamment à la demande de certains consommateurs canadiens de viande sans hormones. Mais les choses pourraient changer. Si un jour, par exemple, l'acide paracétique utilisé dans les abattoirs outre-Atlantique est autorisé en Europe, le bœuf canadien pourrait alors envahir le marché hexagonal. Les éleveurs français redoutent également que les producteurs canadiens, voyant la demande de viande sans hormones progresser, se mettent également à en produire et en exporter, car les Canadiens, aujourd'hui, n'utilisent que 5% des possibilités d'exporter qui leur sont offertes par les quotas sur la viande bovine. Les perspectives de croissance sont donc pour eux très importantes.
Merci Agnès Soubiran et Maxence Lambrecq pour ces éclairages sur ce CETA. La mobilisation des agriculteurs, j'y reviens, les forces de l'ordre sont intervenues ce matin à Pau pour débloquer un site de Total Énergie. Les agriculteurs du syndicat Coordination Rurale en empêchaient l'accès depuis une semaine pour demander le plafonnement du gasoil non routier à 1 euro. Le tribunal de commerce de Bordeaux lui donne son feu vert au plan de sauvegarde des 26 magasins Galeries Lafayette installés en province et qui ont été rachetés ces dernières années par Michel Ohaillon. Les syndicats en ont eu la confirmation ce matin, mais ils se disent toujours vigilants puisque Michel Ohaillon a conduit plusieurs enseignes vers la difficulté ces derniers mois, Camailleux, Gosport ou encore La Grande Récré. Là, on parle d'un programme européen qui ne fait pas polémique. Au contraire, Erasmus, programme d'échange étudiant à travers le continent. 130 000 jeunes Français y ont participé en 2022. Et bien, l'agence Erasmus France vient de mener une enquête auprès de ses étudiants, Sonia Princé, et elle constate une augmentation du nombre de candidats.
75% des jeunes qui ont participé au programme Erasmus déclarent mieux connaître l'Union européenne et la vie politique. 86% indiquent même qu'à leur retour, ils ont eu envie de s'engager personnellement pour des idées ou une cause. Lisa, 19 ans, est déjà partie plusieurs fois avec Erasmus au collège et au lycée, une expérience qui l'a changée.
Ça apporte tellement de choses que je pense que la liste serait trop longue. Ça m'a transformée, je suis plus tout la même personne. Ça apporte une confiance en soi, des amis de partout. De toute façon, mes proches sont tous issus d'Erasmus. Enfin, on a tous fait des Erasmus ensemble, donc ouais, ça m'apporte énormément.
L'agence Erasmus France a reçu 30% de demandes en plus entre 2022 et 2023. Nelly Fessot est directrice de l'agence.
C'est une progression qui a été constatée déjà depuis plusieurs années, mais je crois que après le Covid, ça a été extrêmement net, c'est-à-dire qu'à partir de 2022, puis 2023, cette augmentation est très forte. Je crois que c'est aussi l'envie de rencontrer les autres, de bouger. Et nous avons comme priorité cette dimension citoyenne de construire, de renforcer l'appartenance, le sentiment d'appartenance et la citoyenneté européenne.
Et cette année, le programme européen se diversifie avec de nombreux projets autour des Jeux Olympiques, avec par exemple des échanges entre des classes de Paris et de Barcelone, ville organisatrice des Jeux en 1992.
Sonia Princey, la France qui fait figure de mauvais élève en Europe pour ses comptes publics. Nous avons parlé ici même et longuement de la dette publique française, c'était lundi, et puis du déficit pour l'année dernière. Mais chaque jour, on en apprend un peu plus sur l'ampleur de l'écart entre recettes et dépenses dans le budget de l'État de l'an dernier. Ce matin, le ministre délégué chargé des comptes publics, Thomas Cazenave, admet qu'il sera supérieur à 5%, c'est-à-dire l'un des pires hors Covid de ces 20 dernières années, et surtout bien au-delà des prévisions. Mathilde Dehimy, vous êtes avec nous, service éco de France Inter. Comment les spécialistes de Bercy ont-ils pu se tromper à ce point?
Alors à minima, on va dire qu'ils ont voulu croire au scénario le plus optimiste pour la France et que pour ne rien arranger, le contexte économique international s'est lui dégradé. C'est ainsi que le ministre des Comptes publics explique de nouveau ce matin l'aggravation des prévisions, la guerre en Ukraine toujours, la croissance chinoise qui ralentit, affaiblissant notamment beaucoup l'Allemagne, ce qui pèse à son tour sur la France. Des causes, on le voit, plutôt externes. Donc, quand les oppositions pointent surtout les choix budgétaires internes du gouvernement pour entrer dans les engagements européens et à l'époque débloquer des aides de Bruxelles, la France avait promis pourtant qu'elle passerait sous les 3% de déficit en 2027, bien après d'autres pays, comme l'Espagne ou l'Italie, elles eux aussi touchées par la crise. En 3 ans, on devait donc passer de 4,9 à 4,4, puis 2,7. Sauf que là, on sera au-delà de 5% cette année. On parle même de 5,6. On le saura officiellement mardi via l'INSEE. Alors, ça ne semble être que des chiffres, hein, dit comme ça. Mais chaque dixième d'écart représente plusieurs milliards d'euros qui vont manquer dans les caisses de l'État et donc des politiques publiques. Le tout sous la pression le mois prochain des agences de notation.
Merci Mathilde Dehimy. Et manifestement, le Sénat s'interroge aussi sur l'ampleur de ce déficit. Le Sénat qui fait savoir qu'il effectue aujourd'hui un contrôle, je cite, sur pièce et sur place à Bercy, donc au ministère de l'économie et des finances. Alors la politique, ce sont des chiffres, ce sont aussi des images. Et ces derniers jours, deux d'entre elles nous ont interpellés. L'ancien ministre Olivier Véran, photographié en pleine séance de boxe avec des jeunes en Seine-Saint-Denis. Et puis Emmanuel Macron, lui aussi, dans une salle de boxe, à l'entraînement, photo noir et blanc diffusée avant-hier. Point commun donc entre ces deux exercices de communication, le sport choisi, la boxe, sport populaire, devenu celui des classes favorisées, analyse le sociologue Loïc Vacan, lui-même boxeur.
La boxe, c'est pour montrer qu'on est coriace, qu'on est tenace, qu'on est dur au mal, qu'on ne lâche rien. C'est la montée des pratiques sportives parmi les CSP+, d'être en forme, ça fait partie de l'image du cadre dynamique. Et donc ce message de Macron, il est envoyé plutôt à son cœur d'électorat plutôt qu'à l'électorat populaire qui lui est plutôt passé au MMA et à la boxe thaï. Mais il y a un précédent qui est plutôt embarrassant, qui est Poutine. Poutine qui s'est fait montrer dans une série de vidéos où on le voit boxer, on le voit faire un combat de judo, on le voit monter à cheval. Donc on peut se poser la question de savoir à quand verra-t-on Macron sur son cheval ou les patins au pied en train de jouer au hockey.
Loïc Vacan, auteur l'an dernier du recueil de photographies Voyage au pays des boxeurs. Il réagissait au téléphone de Clara Lecoq-Réal.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
L'auteur de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg en 2018 a été tué 2 jours après cette attaque. Mais depuis 3 semaines, 4 hommes sont jugés par la cour d'assises spéciale de Paris pour l'avoir aidé à se procurer des armes. Et ce matin, le principal accusé était interrogé par la cour. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Vous suivez ce procès pour Inter. Cet homme a rencontré Chérif Chekat en détention et ce matin, il a été interrogé sur son parcours.
C'est une scène peu commune dans l'immense salle d'audience. Sur les écrans, les images d'un clip de rap amateur, gros cylindré, armes et filles dénudées. Dans le box, le rappeur en question, large carrure, engoncé dans une chemise blanche, se tient la tête entre les mains. Né en Côte d'Ivoire, il a 9 ans quand il apprend que celle qu'il croyait être sa mère n'est en réalité que la compagne de son père, tandis que sa mère biologique, elle, le réclame en France auprès d'elle et de 11 autres enfants. Mais ça se passait bien, explique aujourd'hui l'accusé, 42 ans et une grosse tendance à l'euphémisation. Car la réalité est plutôt celle d'un placement en foyer à 14 ans, condamné pour la première fois à 16. Ce n'est pas une fierté, madame, lance-t-il tête baissée. 23 autres condamnations, principalement pour violence, viendront noircir son casier judiciaire. C'est d'ailleurs en prison, vous l'avez dit, que ce père de 4 enfants rencontre Chérif Chekat. Et 10 ans plus tard, raconte l'accusé, il vient me voir, tu peux me trouver des armes ? Moi, j'étais dans l'optique qu'il était comme avant, dans les braquages. Je ne suis pas un terroriste, ajoute-t-il en larmes. Au lendemain de l'attentat, Audrey Monji se rend d'ailleurs lui-même à la police. J'y suis allé sans avocat, je pensais pas être incarcéré. Il encourt aujourd'hui la réclusion à perpétuité pour complicité.
Compte rendu d'audience en direct, signé Charlotte Piré. 5 ans après le suicide d'une collégienne, Evaëlle, c'était dans le Val d'Oise à Herblay. Sa professeure de français de l'époque va être jugée pour harcèlement sur mineur devant le tribunal correctionnel. La juge qui a mené l'instruction lui reproche d'avoir régulièrement humilié la jeune fille, le tout devant sa classe. Dans une vingtaine de lycées d'Île-de-France, des élèves ont reçu ce matin des menaces. Leur auteur affirme qu'il va faire exploser leur établissement au nom de l'État islamique. C'est leur ENT, leur espace numérique de travail qui a été piraté. L'accès à ces ENT depuis a été bloqué. La région Île-de-France porte plainte. Cette fois, les résultats sont définitifs. La commission électorale russe les a prononcés ce matin. Vladimir Poutine a été réélu président de la Russie avec 87,28% des voix. Moins de 500 plaintes au total sur des violations ont été enregistrées. Ce n'est rien du tout, a tranché la présidente de cette commission. Pourtant, Isabelle Labéry, 5 jours après le scrutin, plusieurs médias indépendants affirme aujourd'hui que la fraude a été massive. Il s'agit même, selon eux, de l'élection la plus truquée de l'histoire de tout le pays.
Oui, officiellement, la commission électorale a décompté un peu plus de 76 millions de votes pour Vladimir Poutine. Mais selon le site d'investigation Medusa, au moins 22 millions de ces bulletins ont été falsifiés. 32 millions même, selon l'autre média d'opposition Novaya Gazeta Europe. Autrement dit, quasiment la moitié des voix accordées au président russe. Les enquêteurs ont notamment constaté que lorsque la participation explose, c'est toujours au profit de Vladimir Poutine. On s'était déjà rendu compte vendredi que des fonctionnaires zélés avaient appliqué à la lettre les objectifs qu'on leur avait fixés, si bien que des dizaines de bureaux de vote affichaient le même taux de participation au centième près. En revanche, il y a eu assez peu de constatations de bourrage d'urne, les observateurs étant réduits à la portion congrue. Certains ont malgré tout pu constater des manipulations, même à Moscou, où les autorités pourtant restent discrètes. 60% des voix pour le chef de l'État dans les bureaux de vote où ils étaient présents, 99% quand ils n'étaient pas là. Le régime ne cherche même plus à faire semblant.
La Russie qui a communiqué ce matin sur une nouvelle progression en Ukraine, la capture du village de Tonenke à l'ouest d'Avdivka, prise le mois dernier. La capitale ukrainienne Kiev a également été massivement bombardée la nuit dernière, première attaque d'ampleur depuis janvier. Au Japon, c'est une bactérie qui met en alerte les autorités. Elles ont constaté un nombre inhabituel de formes graves d'infections invasives dues à une bactérie de type Streptocoque A. Quelques centaines de cas, le phénomène a déjà été observé dans d'autres pays, mais là la recrudescence est inédite sur l'archipel avec des formes graves et mortelles de cette infection. Karine Nishimura est à Tokyo pour Inter.
La bactérie s'appelle Streptococcus pyogène et elle n'est pas rare. On peut la trouver couramment dans la gorge ou sur la peau de personnes saines, mais elle peut aussi entraîner des infections graves et invasives, parfois accompagnées d'une défaillance multiviscérale dite syndrome de choc toxique streptococcique ou STCS. Ce sont ces cas rares dus à la fabrication d'une toxine par cette bactérie qui ont augmenté l'an passé au Japon et encore plus depuis ce début d'année, puisque déjà 474 malades ont été recensés, soit en moins de 3 mois, la moitié du total constaté sur toute l'année 2023. La mortalité des STCS est de l'ordre de 30%, d'où la volonté des autorités de prévenir les infections invasives et d'en mieux comprendre l'origine. Tokyo, Karine Nishimura, France Inter.
C'est une espèce qui est arrivée d'Asie il y a 20 ans et qui depuis prolifère, le frelon asiatique, désormais présent dans la quasi-totalité des départements de métropole, ennemi des abeilles, dangereux pour l'homme. En ce moment se joue la première étape de la lutte pour éviter sa propagation, le piège des reines fondatrices. Océane Zitouni y a assisté à Coubert, en Seine-et-Marne.
Entouré d'abeilles sans protection, en simple jean t-shirt, Olivier Guirbal est en train de renouveler les cadres de ses ruches. Apiculteur, il est aussi devenu, par la force des choses, désinsectiseur suite aux attaques de frelons asiatiques dans son ruchier. En ce moment, il se consacre à piéger les reines fondatrices.
Là, on commence juste à avoir de la chaleur et du beau temps. Donc les frelons asiatiques vont sortir de leur diapause, c'est l'hibernation des insectes, et vont construire un nid, gros comme une balle de tennis, et il n'y a qu'un individu, la fondatrice. C'est là où on intervient.
Olivier Guirbal a déjà distribué 200 pièges sélectifs aux mairies et à ses collègues apiculteurs.
Le frelon va pouvoir rentrer dans le piège, mais si c'est un frelon...
Si le frelon asiatique ne tombe pas dans le piège et parvient à construire son nid, il faudra alors le détruire. C'est l'autre mission d'Olivier, mission facilitée par l'éducation du grand public à ce sujet.
Les gens maintenant signalent aux mairies, attention, il y a un nid de frelon, où on traite les frelons. Une semaine après, on vient enlever le nid. Dans cette période d'une semaine où on laisse le nid pour pouvoir l'enlever, il y a des gens qui vont continuer à les signaler à la mairie. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qu'à une époque qui savent reconnaître le nid de frelons asiatiques.
Les reconnaître, c'est bien, mais encore faut-il les repérer. Selon l'expérience d'Olivier Guirbal, les nids peuvent se former dans des endroits improbables, à côté d'un pot d'échappement, dans un baby-foot ou dans des bouches d'égout.
En jean t-shirt avec les frelons, il vaut mieux éviter tout de même. Reportage Océane Zitouni. Qui pourra assister à la cérémonie d'ouverture des JO le long de la Seine le 26 juillet prochain? Ce sera gratuit, mais sur invitation. La ministre des Sports a donné quelques informations ce matin. Il y en aura un peu moins de 10 000 de ces places pour le mouvement sportif, 75 000 pour les différentes collectivités et 140 000 pour Paris, le comité d'organisation et l'État. Les Jeux, lui, il veut y participer. Kevin Mayer, double médaillé d'argent olympique du décathlon. Il n'a pas encore réalisé les minima, alors il se lance aujourd'hui au décathlon de San Diego, en Californie. Il doit y cumuler au moins 8 460 points. Ça peut paraître anecdotique pour le recordman du monde de la spécialité, mais Emma Sarango, depuis plusieurs années, il enchaîne blessures et forfaits. Alors cette qualification commence à ressembler à une course contre la montre.
Inutile de prétendre que le calendrier est idéal. Alexandre Bonacorsi, l'entraîneur de Kevin Mayer, avoue volontiers que la tâche aurait pu être plus aisée pour le décathlonien.
Il faut se qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est pas ce qu'il aime le plus, devoir faire un décathlon pour se qualifier. Il l'a déjà fait par le passé, il l'avait fait à La Réunion en 2020, il l'avait fait à Godzis en 2016. Il sait ce que c'est.
Bien sûr, il y a selon lui un plan B, même C, D, E, F, car Mayer a jusqu'au 30 juin pour réaliser ses minima. Mais pas de raison d'envisager le pire. Car Kevin va bien, et ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça.
Tous les voyants sont verts, tout va plutôt bien. On a enchaîné vraiment plusieurs mois d'entraînement sans gros pépins physiques, sans frein, donc c'est vraiment appréciable.
D'autant que le décathlonien, qui aime toujours autant les calculs, estime qu'il doit être seulement à 83% de ses capacités pour réaliser ce score de 8460 points. Alors lui et son entraîneur vont mesurer les efforts.
Par exemple, si un premier saut en longueur est très convenable, il n'y aura pas de deuxième et troisième saut. Si un premier jet de poids est très convenable, il n'y aura pas de deuxième et troisième lancé.
Un décathlon crucial dans des conditions a priori optimales avec une vingtaine de degrés actuellement à San Diego.
Voilà, vous avez même la météo en Californie. Emma Sarango, 13h27 sur Inter. Vous aurez aussi la météo chez nous, grâce à vous, Elodie Calac, ce sera dans quelques minutes. Et puis à 13h30, accès à l'eau, pollution au chlordécone, deux dossiers qui empoisonnent au sens propre la vie des Guadeloupéens depuis des décennies. Plusieurs collectifs saisissent aujourd'hui le Conseil de l'Europe pour obtenir réparation. J'attends vos questions pour nos invités. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton, ces églises qui continuent de sortir de terre en France. 13h50, c'est la France et c'est une chanson, Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest avec nous, ainsi que Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Marie-Luce, vous nous parlez de la semaine très particulière de deux étoilés du Michelin.
Oui, parce que lundi, c'était la remise des macarons. Avant, pendant, après, Jean Cousseau et Nicolas Masse ont partagé leur quotidien, leurs espoirs. Voici leur journal de bord.
En exclusivité, je le précise, et avec vous Frédéric, un chanteur.
Mathieu Pedupin, connu sous le nom de Lescope.
Ah oui, oui.
Il est actuellement en tournée, nous parlera de son admiration pour les Doors et pour Jim Morrison.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Bonjour, c'est Elise Moon. Je voudrais vous parler d'un spectacle que j'adore, celui de la nature. Voir des haies, des arbres fruitiers ou des plantes grimpantes sur les façades, dans ce spectacle, on a tous un rôle à jouer. Pour y participer, rendez-vous sur jagisjeplante.org. En famille, avec vos voisins, vos élèves ou votre club de sport, vous verrez où et quoi planter pour embellir votre quotidien et redonner vie à la biodiversité. La nature vous dit merci. J'agis, je plante est une initiative de la Fondation pour la Nature et l'Homme.
France Inter présente
Les pouvoirs extraordinaires de la musique.
Un livre d'André Manoukian.
L'homme a-t-il chanté avant de parler? Comment le chant des baleines peut-il nous soigner?
Autant de questions surprenantes pour découvrir l'univers du son et ses effets sur l'homme et la nature.
Les pouvoirs extraordinaires de la musique.
D'André Manoukian, un livre France Inter.
France Inter, partenaire du 48e Printemps de Bourges Crédit Mutuel, du 23 au 28 avril. Le festival de l'émergence, des créations et de la découverte. Avec Silly Boy Blue, Cat Power, Johanna, Les Istrata, Jossman.
J'ai enlevé le smile de la face. J'ai enlevé le smile de la face.
Le Printemps de Bourges Crédit Mutuel, du 23 au 28 avril. Le festival où tout commence. Un événement France Inter. Toutes les infos sur franceinter.fr.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles. Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est une journée douce et souvent ensoleillée.
Oui, la douceur persiste. Alors petite baisse au nord, mais ça reste quand même 3 à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison, avec 11 à 15 degrés sur le littoral de la Manche, 17 à 21 degrés sur le reste de la moitié nord, 19 à 24 au sud. Côté ciel, on trouve des nuages de la pointe bretonne jusqu'au nord Pas-de-Calais, hein, parfois bien compacts. Partout ailleurs, c'est ensoleillé, un soleil franc de l'Aquitaine au sud des Alpes et en Corse, avec un petit peu de vent vers la côte d'Azur. On a quelques passages nuageux plus au nord, d'ailleurs un peu plus présents sur les massifs cet après-midi, avec parfois une averse, voire un coup de tonnerre sur le nord des Alpes et l'est des Pyrénées. Demain, on aura encore du soleil après les grisailles fréquentes du matin, de la douceur, mais ça ne va pas durer puisque dès demain, début de changement sur les régions voisines de la Manche, avec le retour de la pluie et des températures en baisse. D'ailleurs, cette baisse va se poursuivre pour samedi. On perdra parfois 8 à 10 degrés hein, par rapport à la veille et on aura des giboulées au nord.
Donc, on en profite pour l'instant. Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Plus de 30 ans maintenant que son utilisation est interdite, mais le chlordécone, aspergé pendant presque 20 ans sur les cultures de bananes en Guadeloupe et Martinique, ce pesticide continue d'avoir des effets dévastateurs sur la santé, sur l'environnement, mais aussi sur la vie démocratique des deux îles. La santé, c'est une explosion des cancers de la prostate. L'environnement, c'est la moitié des ressources en eau douce polluées. Et puis la démocratie, c'est une confiance rompue avec les autorités françaises qui ont longtemps fermé les yeux sur ces ravages. Les députés ont d'ailleurs voté le mois dernier la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans ce dossier, mais il reste tellement à faire, à commencer par l'approvisionnement en eau. Un quart de la population de Guadeloupe n'a pas accès tous les jours à l'eau en raison des coupures. Ça, c'est ce que dénonçait l'an dernier l'ONU. Manifestement, les choses n'ont pas beaucoup changé, d'où la présence dans ce studio de nos deux invités. Sabrina Cajoli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste, défenseur des droits humains en Guadeloupe où vous résidez. Nous sommes également avec Marie Zartiguelon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la vice-présidente de la Fédération internationale pour les droits humains. Les auditeurs de France Inter peuvent vous interroger directement. 01 45 24 7000, ça se passe aussi via l'application France Inter. Le chlordécone et l'eau, les deux dossiers sont liés. Sabrina Cajoli, vous saisissez aujourd'hui le Comité européen des droits sociaux qui dépend du Conseil de l'Europe pour exiger de la France l'accès urgent à l'eau potable en Guadeloupe. Ça veut dire que rien n'a changé depuis un an et l'alerte de l'ONU à laquelle je faisais référence il y a un instant.
Alors effectivement, nous saisissons donc l'association que je représente, Cambered French West Indies, mais représentée par la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, et avec le concours de la Ligue des droits de l'homme, le Comité européen des droits sociaux, sur la question de l'accès urgent à l'eau potable en Guadeloupe, mais également sur l'empoisonnement au chlordécone en Guadeloupe et Martinique.
Sur les deux problématiques et sur Guadeloupe et Martinique. Si on parle de l'eau, quel est le problème aujourd'hui?
La situation non seulement n'a pas changé, mais elle ne fait que s'aggraver. Prenez par exemple la question de l'assainissement. Il y a 2020, quand j'ai commencé mon engagement sur la question, à peu près 70% des stations d'épuration n'étaient pas aux normes. Aujourd'hui, c'est près de 80%. En 2020, nous avions 60% en moyenne de perte d'eau sur le réseau, de fuite. Aujourd'hui, c'est plus de 80% dans certaines zones de la Guadeloupe. C'est un rapport de la Cour des comptes de 2023 qui le dit. Donc, la question de la vétusté des installations qui peuvent conduire à ce que des métaux se désagrègent dans l'eau, l'assainissement vomissement qui peut amener à ce que de la matière fécale se retrouve dans l'eau, et la question en plus de cela de la pollution de l'eau aux pesticides comme le chlordécone en particulier se pose toujours avec une particulière gravité.
On est toujours sur ce chiffre d'un quart de la population pour parler de la Guadeloupe qui n'a pas accès tous les jours à l'eau potable ?
C'est bien plus, c'est toute la population. Ce sont plus de 380 000 personnes en fait, qui n'ont pas accès à l'eau potable en Guadeloupe. Pourquoi ? Parce que les coupures, d'abord, effectivement, n'affectent pas tout le monde, mais de plus en plus de personnes dans toutes les parties de l'île. Et quand ce n'est pas à la maison, c'est aussi à l'école ou à l'hôpital, dans les institutions publiques, vous avez ces coupures. C'est aussi dans les commerces, dans les sites touristiques, etc. Donc finalement, vous pouvez être affecté partout par ces coupures d'eau, pas seulement à la maison. Ensuite, la pollution de l'eau se pose à multiples titres, comme je vous le disais tout à l'heure. Uh-huh. Et donc, c'est là, la non-potabilité de l'eau concerne tout le monde en Guadeloupe. Donc, c'est 100% de la population qui est concernée.
Marie Zartiguelon, pourquoi vous joindre à cette action aujourd'hui ? Le sujet est régulièrement évoqué, visite de ministres, j'en dirai un mot dans un instant sur place, financement des collectivités locales, etc. Pourquoi est-ce qu'il faut aller au-delà aujourd'hui ?
Alors, parce que de toute façon, toutes les procédures n'ont pas abouti, comme vous venez de le rappeler. En fait aussi, c'est seulement la FIDH qui peut porter cette réclamation collective auprès du Conseil des droits sociaux du Conseil de l'Europe. Il n'y a que 60 ONG d'envergure mondiale ou européenne qui peuvent porter ces réclamations. Donc la FIDH, dont la LDH est membre, et parce qu'elle s'intéresse énormément aux questions d'environnement, a trouvé tout naturel de porter cette réclamation et a beaucoup travaillé avec Sabrina notamment Sabrina n'avait pas besoin de la FIDH pour enquêter sur la Guadeloupe, mais pour voir quels étaient les articles de la charte des droits sociaux qui permettaient d'attaquer la France dans cette réclamation.
Ce comité européen, il peut prendre des décisions contraignantes ou bien ça pourrait être une décision symbolique, si je puis dire.
Il peut prendre des décisions contraignantes. Après, le problème, c'est le Conseil n'a pas d'armée, n'a pas de policiers pour contraindre un pays à appliquer ses résolutions.
Donc c'est l'un des aspects de l'action qui est menée, qui prend différentes formes. Je rebondis sur l'une des questions qu'on a via l'application France Inter. Sabrina Cajoli, c'est Francis qui nous demande: qu'en est-il de l'utilisation des subventions de la métropole ? Ont-elles bien été attribuées à l'entretien du réseau ? Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation d'un réseau dont vous nous décriviez l'état il y a une minute en déliquescence, si je vous comprends bien ? Ça veut dire qu'on l'a abandonné pendant des années ? Comment on en arrive là ?
Oui, tout à fait. L'enquête parlementaire de 2021 est très éclairante à ce sujet. En fait, elle rappelle que la compétence de l'eau a été exercée pendant 30 ans par Veolia, cette compétence lui ayant été déléguée par l'État. Et que lorsque Veolia a quitté l'île, les problèmes de l'eau étaient déjà apparus. Mais une clause de non-poursuite judiciaire avait été signée entre les parties prenantes, de sorte que les personnes qui géraient l'eau à l'époque ne pouvaient pas être poursuivies en justice. Les élus locaux ont récupéré la compétence de l'eau depuis donc moins de 10 ans. Et effectivement, il y a parfois des problèmes de gestion de l'eau et des subventions. Ce qui est intéressant de relever, c'est que parfois, contrairement aux idées reçues, le budget du principal opérateur de l'eau est sous-dépensé annuellement. En fait, ce sont les dires du coordinateur du plan ODOM au niveau gouvernemental et du syndicat de l'eau lui-même.
Ils ne dépenseraient pas tout l'argent qu'ils ont à disposition ?
Tout à fait, parce qu'en fait, les problèmes techniques aujourd'hui pour réparer les fuites d'eau en Guadeloupe sur le réseau d'eau sont tellement difficiles. Vous voyez, il faut par exemple vraiment défoncer la chaussée littéralement pour pouvoir avoir accès à certains segments des tuyaux et puis les réparer. Et lorsque vous réparez un segment, ça peut en fait peut-être en détruire un autre du fait de la pression qui est rétablie. Qu'en fait, ce sont des travaux qui sont lents et très contraignants, très difficiles. C'est pour ça qu'en fait, même si aujourd'hui on avait toute la volonté politique du monde et tout l'argent du monde pour réparer le réseau, ça prendrait encore des années et des années. D'où l'objet de ce recours européen devant le Comité européen des droits sociaux, c'est de demander des mesures d'urgence pour la population, pour l'alléger de ses souffrances au quotidien, dans l'attente de la réfection totale et sur le long terme du réseau d'eau et d'assainissement en Guadeloupe.
Pierre nous appelle précisément de Guadeloupe, du Gosier, je crois. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Témoignage et questions aussi, je crois.
Oui, j'habite la Guadeloupe depuis 30 ans. Avant, je venais de la Martinique. J'ai, comme tout le monde, des problèmes d'eau et des inquiétudes concernant la chlordécone. Mais je suis toujours un peu étonné qu'on cherche, sur les deux sujets qui sont distincts, à exonérer systématiquement la responsabilité locale. La chlordécone, c'est un choix de planteur d'utiliser une molécule qui était interdite, le rachat d'une licence aux Américains qui eux-mêmes ne l'utilisaient plus, la demande de nos parlementaires d'obtenir des prolongations. Ça, on a l'impression que c'est passé sous silence. Uh-huh. Et le problème de l'eau et le problème de l'assainissement, même si effectivement il y a eu Veolia, relève quand même principalement de la responsabilité de nos élus. L'assainissement à la Guadeloupe, c'est une catastrophe. On est en train, la quasi-totalité de nos stations d'épuration sont sous-dimensionnées et posent des véritables problèmes de fonctionnement. Nous déversons aujourd'hui de l'eau sale sur nos côtes et dans nos littoraux. Alors, certes, il faudra beaucoup d'argent. Nous souhaitons que l'État nous aide, mais nous souhaitons aussi qu'un inventaire des responsabilités locales soit véritablement établi pour que toutes ces erreurs ne se reproduisent plus.
Merci Pierre pour ce témoignage, cette question aussi. Sabrina Cajoline, une réaction, les responsabilités locales, dit Pierre.
Alors, merci beaucoup pour ce témoignage et cette prise de position. D'une part, en fait, quand même, contrairement aux idées reçues, la responsabilité première et ultime de la gestion de l'eau et de la santé publique, c'est celle de l'État. Et c'est ce n'est pas moi qui le dis seulement, mais c'est 70 experts des Nations Unies qui, rien que l'année dernière, à travers 4 mécanismes, notamment le Comité des droits de l'enfant, le Comité des droits des femmes et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, sont venus le dire. Ce sont également 5 rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur les droits humains, notamment sur le droit à l'environnement.
Et ce qui ne veut pas dire que des élus locaux n'ont pas des responsabilités sur des décisions qui ont pu être prises ces dernières années, c'est ce que suggérait Pierre.
Effectivement, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, d'après le droit international des droits de l'homme, qui est applicable chez nous, qui relève de chez nous, l'État peut déléguer cette compétence, que ce soit à des acteurs privés, comme il l'a fait pendant 30 ans avec Veolia, ou à des acteurs et des élus locaux, comme il le fait depuis une dizaine d'années en Guadeloupe. Mais il a toujours la responsabilité d'encadrer, d'accompagner, de transférer des compétences et d'appuyer avec des ressources techniques, financières, logistiques, cette gestion de l'eau. Donc oui, la responsabilité reste toutefois partagée, puisque en plus c'est une compétence qu'ont revendiqué les élus locaux, mais il y a une responsabilité première et ultime de l'État en la matière.
Les députés ont d'ailleurs voté sur le dossier du chlordécone le mois dernier la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans ce dossier. Est-ce que cette loi n'apporte pas tout de même une avancée, puisque elle indique, Maryse Artiguelon, que désormais l'État s'assigne pour objectif l'indemnisation des victimes de cette contamination et de leur territoire? Ça, c'est une bonne chose?
Oui, c'est une bonne chose. C'est un député guadeloupéen qui a déposé une proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Maintenant, on attend qu'elle soit votée au Sénat. C'est pas évident. Je pense que c'est pas gagné. De toute façon, sur la responsabilité de l'État, je pense qu'elle est peut-être pas entière, mais elle est quand même très importante. Sur le chlordécone, c'est quand même à l'État à prendre des dispositions, parce que de toute façon, ceux qui en ont profité ne sont certainement pas les personnes qui en sont victimes à l'heure actuelle. Je pense aux grands propriétaires de bananeraies, etc., qui n'ont certainement pas été intoxiqués par le chlordécone.
Oui, mais ce sont eux qui ont décidé d'utiliser ce pesticide.
Bien sûr. Alors, effectivement, l'État peut se retourner contre eux, mais je pense qu'il y a quand même peu de chances que ça aboutisse.
Combien d'indemnisations, Sabrina Cajoli, dans le dossier du chlordécone jusqu'à présent? Est-ce qu'il y en a eu, d'ailleurs?
Alors, pour d'abord bien apprécier ce chiffre, il faut savoir quel est le taux de contamination de la population. Donc, 92%, c'est le pourcentage de la population contaminée au chlordécone en Martinique. 95%, c'est le pourcentage de la population contaminée en Guadeloupe.
D'après, ça ne veut pas dire malade, ça veut dire contaminé. Il y a une différence
imprégné.
Entre les deux.
Malade, alors vous pouvez ou pas déclarer une maladie, mais vous l'avez dans votre corps, donc vous êtes exposé à ce risque accru pour la santé. Et vous savez, on a le plus haut taux de cancer de la prostate au monde, on a des problèmes de prématurité des enfants, de développement cognitif et comportemental des enfants. Tout ça, ça a été prouvé, documenté. Et scientifiquement prouvé.
Et
puis il y a des impacts aussi sur les femmes qui sont sous-documentées pour l'instant, mais il y a des chiffres alarmants en termes de cancer de toutes sortes, parce que le chlordécone est un perturbateur endocrinien qui provoque des maladies hormonales.
Donc
sur les indemnisations, ouais. Oui. Donc sur une population touchée à plus de 90% par le chlordécone, aujourd'hui, en 2024, d'après les chiffres de l'État qui datent du mois de février, 60 personnes indemnisées.
Donc c'est un chiffre 60. Très faible. Ouais.
Je pense.
Un dernier mot avec vous, Maryse Artiguelon. J'en ai parlé. Les conséquences sur la vie démocratique. Et on l'a vu au moment de l'épisode du Covid. Il y a une méfiance terrible des populations de Martinique et de Guadeloupe vis-à-vis de tout message de santé de l'État. Là aussi, il y a un enjeu important.
Bien sûr. Il y a d'abord des fausses informations, mais il y a aussi effectivement une défiance très grande vis-à-vis de l'État. Et quand les messages pendant le Covid étaient « lavez-vous les mains premier message
ouais. »
et qu'il n'y a pas d'eau pour se laver les mains, comment fait-on ? Donc c'est vrai que la crédibilité de l'État est assez faible et on voit bien les résultats des élections à chaque fois.
Merci à toutes les deux d'avoir accepté l'invitation du 13-14 de France Inter aujourd'hui pour parler de ce sujet, de ces dossiers qu'on suit évidemment régulièrement. 13h45
Merci.
Sur Inter. Notre feuilleton, et cette semaine nous parcourons l'Île-de-France où l'on continue de construire des églises. Construire ou reconstruire, c'est ce qui s'est passé en 2016 à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. L'église Jean 23 a dû être démolie, puis rebâtie car située sur le tracé d'une nouvelle ligne de tram. Et juste à côté, une chapelle qui nous rappelle l'histoire paysanne de cette cité populaire. Nous suivons notre reporter Cécilia Arbonnat.
Bonjour. C'est une petite chapelle, un lieu de pèlerinage diocésain qui date depuis le temps du Moyen-Âge.
Le 8 septembre 1212, des marchands qui venaient d'Anjou se sont perdus dans la forêt de Bondy. Ils ont été dépouillés de leurs biens, attachés à des arbres. Donc l'un d'entre eux a prié Marie et l'histoire veut que le ciel s'est ouvert, un ange est venu de derrière Marie, l'ange a touché le sol et de l'eau a jailli. Et puis après cela, bien celui qui a été détaché a détaché ses compères. Et puis ils ont pu prendre le temps de prier auprès de la source. Et très vite, c'est devenu un lieu de pèlerinage. Là, je m'appelle Raphaël Grondin, curé de la paroisse Saint-Denis de Clichy-sous-Bois. Des personnes ont entendu qu'il y avait une source, qu'il y avait eu un miracle sur ce lieu. On a dû, au fur et à mesure, accueillir le nombre de personnes qui étaient de plus en plus nombreux. On a dû donc construire un lieu qui pouvait contenir aussi bien des personnes que des animaux, parce que les gens venaient de très loin. Et donc il y en a qui venaient avec, par exemple, des vaches. Pourquoi une vache ? Parce que sur le trajet, on pouvait prendre du lait pour se nourrir. Voilà. Quoi de mieux qu'une grange ? Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que l'architecture de la nouvelle église reprend un peu cette forme de la grange, notamment aussi toute la matière, aussi bien le bois que le fer, que le cuivre, que l'étain.
Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On va entrer dans les entrailles de Notre-Dame. Il y a un cadenas, il y a une grille.
Et voilà le fameux puits où on voit que la source est bel et bien toujours présente. Et là, cette petite rigole, en fait, est au niveau du trop-plein du puits. Donc, vous voyez comment ça coule ? Cela prouve bien que l'eau est toujours aussi vive. Voilà. les gens qui étaient venus pour la première fois en ce lieu, ils avaient des problèmes de peau. Et puis, ils ont pris de cette eau et ils ont été guéris.
Sergiola, je suis franciscaine missionnaire de Marie, polonaise d'origine, à Clichy-sous-Bois, en mission depuis une dizaine d'années. Autour, c'est une église qui est vitrée.
On a vu sur une école, sur des immeubles.
Des immeubles.
Je vais sortir avec vous, Ferdinand. On va se voir dehors.
Je m'appelle Ferdinand Niankouri. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis en France depuis le 16 février 1985. Il n'y avait pas cette église, il y avait celle qui a été détruite, que j'ai fréquentée. Personnellement, je n'ai pas apprécié. Pour ne pas détruire une église, parce qu'il y a un tram qui doit passer. Une église, c'est quand même l'âme de notre ville. On nous a dit non, mais vous en faites pas, on va pas vous laisser tomber, on vous a construit une nouvelle église. Bon, ça a été fait. Quand j'apprends qu'une église à tel endroit est devenue un musée, j'accepte pas ça, moi. Mais non, une église, c'est une église. Alors on dit, il n'y a pas beaucoup de paroissiens. Comme personne ne vient, on va la transformer en musée, en restaurant, en salle de cinéma. Non, mais c'est inacceptable.
Vous travaillez pour cette église.
Absolument,
maintenant.
Mais c'est chez moi. C'est ma chambre, c'est ma maison.
Ah bon. c'est encore plus personnel que votre appartement là-bas.
Ah bah oui. Si je ne viens pas là le mercredi ou le vendredi ou le dimanche, c'est qu'il y a un problème.
Une semaine dans leur vie, réalisation Stéphane Ronxin, suite et fin demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h49, le jeudi, nous parlons gastronomie avec Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest. Marilus, lundi, était remise à Tours les étoiles Michelin et deux chefs ont tenu pour nous cette semaine leur journal de bord.
Ils ont chacun deux étoiles et le premier depuis 53 ans. Il s'agit de Jean Coussoul, 74 ans, à la tête du relais de La Poste à Majesque dans les Landes. On vient d'ici et d'ailleurs pour son foie frais au raisin, sa sole au cèpe, son lièvre à la royale. Le second, Nicolas Masse, 51 ans, officie aux sources de Caudalie, un palace aux portes de Bordeaux. Dans ses assiettes poétiques, le végétal est souverain. Il veille avec la même minutie sur son immense potager et sa brigade préparé pour, un jour, décrocher la lune.
Alors, avant, pendant et après la cérémonie du guide, qu'ont-ils fait ?
Nous sommes dimanche matin, le 17 mars. Jean Cousseau vient de raccrocher le téléphone. Un pêcheur de Cabreton lui apporte dans la foulée deux turbots de 6 kilos. Jean est serein. Il a du beau poisson et depuis 10 jours, il sait que le Michelin ne l'a pas rétrogradé. J'ai été biberonné au guide. C'était le livre de chevet de mon père. Chaque année, avant le verdict, je ne dors pas. Je suis inquiet. Ici, à Majesque, il y a 1000 habitants. Je ne peux pas compter sur les repas d'affaires et les avions qui atterrissent de New York. À la même heure, Nicolas Masse est au volant, plus très loin de Tours. Ce que je ressens, une grande excitation. Les pertes d'étoiles ont été annoncées, je ne peux qu'espérer. D'abord la verte qui validerait tout notre travail pour une cuisine responsable. Et puis qui sait, ce troisième macaron dont on a tant envie. Ce matin, avant de partir, sa femme Nathalie lui a lancé deux mots. Éclate-toi. Le soir, Nicolas et Jean se retrouvent au château de Chambord pour le dîner de gala des 2 et 3 étoiles, la crème de la crème. C'est magnifique, confie Jean. Ils ont ouvert les terrasses, il y a des cheminées impressionnantes dans toutes les pièces. Grandiose, renchérit Nicolas. Ça discute, et le nom de Jérôme Banquetel circule de table en table. Nicolas rentre à 1h, Jean à 2h30 du matin.
Et lundi, c'est le grand jour.
Ce palmarès auquel il ne manque qu'un peu de mise en scène pour concurrencer les Césars. Nicolas est déçu, l'étoile verte lui a encore filé entre les doigts et la troisième attendra. Mais la cérémonie est émouvante, confie-t-il. Michelin nous montre que tout est possible en sacrant Jérôme Banquetel qui attendait depuis longtemps et Fabien Ferré promu si jeune à la plus haute marche. Jean, lui, il n'attendait rien. Il savoure. Beaucoup de jeunes que j'ai formés sont récompensés et ça me rend fière.
Mais à un moment, il faut rentrer.
Ben oui, et retrouver les fourneaux. Mardi, dans la voiture, Annick, la femme de Jean, note qu'il faudra vite répondre à la centaine de clients qui a salué par mail le maintien des 2 étoiles. Nicolas a parlé à son équipe. Elle s'est rassemblée pour suivre la remise des prix sur le live. Il leur a confié que son nom avait encore circulé pour les 3 étoiles. Peut-être l'an prochain.
Alors, Frédéric me la réclame, c'est maintenant. Est-ce qu'on peut avoir la recette ?
S'il vous plaît.
En ont-ils une ?
Autour de l'asperge blanche, parce que la saison débute. Jean Cousseau conseille de bien les éplucher pour éviter tout risque d'amertume. De les cuire dans l'eau bouillante salée entre 7 et 10 minutes, selon leur taille, et de les accompagner d'une sauce hollandaise parsemée de poudre de cacahuète. Nicolas propose de les inciser une fois bouillis et de les farcir de feuilles d'ail des ours avant de les rôtir dans un beurre mousseux. Des idées toutes simples, mais garanties 4 étoiles.
Ça, c'est une excellente idée, un petit peu d'asperges dans les prochains jours. Merci Marie-Luce Ribaud. En direct de Bordeaux, salut aux amis de France Bleu Gironde pour la liaison de C'est la France. Ah, c'est une chanson à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier. On ne sait pas s'il aime les asperges, mais en tout cas, il est là. C'est le chanteur Lescope.
Lescope qui, 8 ans après le précédent, vient de sortir un nouvel album. Rêve, Party, 13 titres où se mélange pop-rock, Cold Wave qu'il donne à entendre en ce moment en tournée. Il sera ce soir en concert à Strasbourg, demain à Metz, la semaine prochaine à Reims et à Tourcoing, puis le 4 avril à La Cigale à Paris. Et c'est une chanson des Doors qu'il a souhaité que l'on écoute, Break On Through, la première chanson de leur premier disque, un disque que Mathieu Lescope a découvert à l'adolescence grâce au film The Doors, le film d'Oliver Stone qui relate l'histoire du groupe et de son leader, le chanteur et poète Jim Morrison.
J'étais en quatrième et comme beaucoup de gamins de ma génération, j'avais toujours aimé la poésie, mais en même temps je trouvais vraiment ça chiant comme idée d'être poète. Je me disais, je me voyais pas dire aux gens décemment « Bonjour, je m'appelle Mathieu Lescope et je suis poète ». Et quand j'ai découvert la musique des Doors, il y avait ce truc où à la fois il y avait un poète et c'était un chanteur de rock. Et je trouvais ça vachement plus cool d'être chanteur de rock que d'être un poète qui fume la pipe au coin du feu. Et cette chanson, bah, elle a une charge poétique et aussi une charge de rock qui m'a tout de suite parlé, que j'ai trouvé hyper touchante. Et en même temps, on peut l'aimer avec son cerveau, mais on peut l'aimer aussi juste avec son système nerveux et son corps.
Et cette chanson-là, elle a fait quoi sur votre système nerveux, sur votre corps, quand vous l'avez entendue la première fois?
Ah bah, impact physique tout de suite, quoi. C'est comme un boulet de canon. Cette intro, là, et puis cette énergie, cette espèce de tunnel noir, là, qui avance, et peut-être vers la lumière, parce qu'elle dit qu'on va peut-être passer de l'autre côté, et on sait pas si c'est un autre côté qui va être dionysiaque, ou si ça va être un autre côté qui va être, au contraire, sombre et froid. On sait pas trop. Elle est mystérieuse, cette chanson. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there.
Cette chanson, Frédéric, est sortie en 1967. Elle dure 2 minutes 28.
2 minutes 28 d'énergie, d'électricité, de paroles mystérieuses, portées donc par la voix de Jim Morrison, que Lescope a longtemps considéré comme un modèle.
Mais j'avais totalement envie de devenir Jim Morrison. C'était mon rêve le plus fou. J'étais persuadé d'être sa réincarnation. Il représentait exactement ce à quoi j'aspirais, enfin ce que je croyais à l'époque, parce qu'après... Bon, je suis quand même devenu chanteur, mais je suis pas devenu le même genre de chanteur que lui. Peut-être un peu moins hiératique et un peu moins histrion que lui. Mais ce qui m'a inspiré en lui, c'est ce mélange de danger et de douceur. Dur et fragile à la fois, comme je dis dans une de mes chansons.
Et ça, c'est un peu vous aussi ?
Peut-être.
Il y a pas mal d'adolescents qui ont vécu avec la photo de Jim Morrison dans leur chambre, sans forcément écouter les Doors.
Ouais.
Est-ce que vous, qui écoutiez les Doors, vous aviez cette photo-là ?
Évidemment. Moi, je suis assez fasciné par les gens, et Jim Morrison, il a vraiment ce truc-là. Je suis fasciné par les gens qui portent leur poésie sur eux. C'est-à-dire que on n'est vraiment pas surpris quand on voit le visage de Jim Morrison là, sur cette photo si célèbre. On n'est pas surpris après quand on découvre sa musique, on se dit bah oui évidemment, ça peut être que lui. Everybody,
Est-ce que cette chanson-là des Doors, et est-ce que la musique des Doors en général, elle continue d'influencer votre musique aujourd'hui?
Ah oui, complètement. Pour moi, c'est le point de départ. C'est le premier groupe de rock que j'ai vraiment aimé, et c'est les premières chansons que j'ai vraiment analysées, essayées de comprendre. Et puis quand j'ai commencé à me dire que je voulais écrire en français, j'ai commencé par traduire les chansons des Doors, et elles m'ont beaucoup inspiré.
Cette chanson-là, vous l'écoutez encore?
Ah ouais, bien sûr. Je l'écoute régulièrement, bien sûr. Pour moi, elle me remet toujours au bon endroit. C'est-à-dire que si je l'écoute, elle me rappelle à moi-même. Vous savez, c'est comme quand on dit... Reprenez-vous, vous n'êtes plus vous-même. Et cette chanson, elle m'aide peut-être à me reprendre, à me rappeler mes fondamentaux.
À savoir pourquoi vous faites ce que vous faites.
Oui, et pourquoi c'est important pour moi. Donc cette chanson des Doors, c'est un porte-bonheur.
The Doors, Break On Through, c'était donc Frédéric, la chanson porte-bonheur de Lescope.
Lescope qui vient de débuter une tournée pour présenter Rêve Parti, son nouvel album. Il sera notamment en concert le 4 avril à La Cigale à Paris.
Merci Frédéric. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme.
Fascinante histoire avec vous aujourd'hui.
Oui, on va plonger au large de Marseille pour visiter les peintures préhistoriques de la Grotte Cosquer. Voilà.
À tout de suite dans la Terre au Carré.